Radio Okapi.
Journal présenté par Patience Ngalula.
Le gouvernement souminois est attendu ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale pour la présentation de son programme en vue de son investiture. Le rapporteur Jacques Joly confirme ses rendez-vous après la réunion du bureau tenue ce lundi en prévision de l'investiture du nouveau gouvernement. Montée de la violence dans l'est du pays, le coordonnateur humanitaire exprime sa vive inquiétude face à cette situation. Bruno Lemarquis, qui s'exprime au nom de la communauté humanitaire, rappelle l'importance du respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de la protection des civils. L'invité de ce journal est Fatih Nzi Hassan, directrice d'Oxfam Afrique à Mission Nord Kivu. Elle a visité les trois camps de déplacés des Roussayo en territoire des Niragongo. Elle plaide auprès d'autres partenaires de la RDC de prioriser la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC dans leurs agendas. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement souminois est attendu ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale pour la présentation de son programme en vue de son investiture. Le rapporteur Jacques Joly a confirmé ses rendez-vous après la réunion du bureau tenue ce lundi en prévision de l'investiture du nouveau gouvernement. Jacques Joly a précisé qu'un débat sera organisé et l'opposition, bien que minoritaire, aura le temps suffisant de parole afin de permettre que toutes les questions des gouvernants soit abordée. Jacques Joly est au micro de Michel Kifindangoy.
Madame la Première ministre a déposé le programme du gouvernement conformément à l'article 90 de la Constitution. Mardi, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une motion d'approbation conformément à cette même disposition constitutionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur pour que le gouvernement soit investi et s'occupe des grands défis qui l'attendent pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques. À l'issue de ces interventions, la Madame la Première ministre pourra répondre aux questions et nous espérons que, maîtrisant son programme, elle verra si elle peut répondre directement demain.
Et quelles sont les grandes lignes de ces programmes, Michel Kifindangoy?
Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République intitulée « Allons-y, unité, sécurité et prospérité », estimé à un coût de plus de 92 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Ce programme vise à matérialiser les 6 promesses du chef de l'État. Il s'agit de créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais, pacifier le pays et mieux protéger sa population, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, assurer plus d'accès aux services de base comme l'enseignement, les soins de santé, l'eau et l'électricité, ainsi que renforcer l'efficacité des services publics. Toutes ces actions seront guidées par 4 principes directeurs, à savoir la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, ainsi que de la participation citoyenne, la réussite de la transition de la RDC vers une société à haute intensité technologique et l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité.
Et puis, ouverture hier lundi à Goma par l'ONG Dynamique des Femmes Juristes, DFJ, d'une formation de recyclage en faveur d'une 50aine de femmes politiques et femmes ayant des ambitions politiques. La formation des 4 jours a pour objectif de renforcer la capacité des apprenants en matière électorale et processus politique. Selon la chargée des programmes au sein de cette organisation, il est aussi question d'évaluer les processus électoraux passés et planifier les prochaines échéances électorale. Maître Liliane Moseka l'est dit au micro de Bernardin Nyangui.
Nous venons de terminer un cycle électoral. Nous nous sommes dit que ça serait très important de revenir sur tout ce qui a été l'évaluation de ces processus-là. et voir où seraient déjà les acquis et les gaps sur lesquels on peut construire pour l'avenir. Et donc nous sommes là dans le cadre d'une session de renforcement des capacités, une école de campagne qui va durer 4 jours, tout en louant les efforts du président pour la nomination de plusieurs femmes. Au-delà de 30%, c'était toujours le seuil qu'on n'arrivait presque pas à dépasser. Mais vu que nous avions plusieurs femmes qui étaient alignées pendant ce processus, et ce à différents niveaux, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions. On s'est dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec les femmes. Et donc nous sommes partis de ces constats-là, d'une faible représentation. C'est pourquoi on a voulu encore une fois renforcer la lutte pour espérer en tout cas rehausser la qualité de leur participation.
Cette formation cadre avec les projets de promotion de la participation et représentation des femmes aux instances de prise de décision, un projet que DFJ exécute en partenariat avec Cordaid. Les coordonnateurs humanitaires expriment au nom de la communauté humanitaire sa vive inquiétude face à l'escalade de la violence dans l'est du pays et rappellent l'importance du respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de la protection des civils. Dans un communiqué de presse publié ce lundi à Kinshasa, Bruno Lemarquis déclare, je cite, « Si cette violence persiste, elle risque d'aggraver encore davantage la situation humanitaire déjà précaire dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, où plus de 900 000 personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées entre janvier et avril 2024, portant le nombre total des déplacés dans ces trois provinces à plus de 5,6 pour un total de 7,3 millions dans les pays. » Fin de citation. D'autres détails avec vous, Grâce Amzati.
Selon les coordonnateurs humanitaires, au cours des 5 premiers mois de cette année, plus de 470 personnes ont été tuées dans la province de l'Ituri, notamment dans des violents incidents contre les populations civiles par les groupes armés dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Aussi, au moins 57 personnes ont été tuées lors d'attaques perpétrées par les forces démocratiques alliées ADF dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, du 3 au 8 juin 2024, ajoute-t-il. Toujours dans le Nord Kivu, la crise du M23 a fait de nombreuses victimes depuis la reprise des affrontements en février 2024. En raison de l'intensité des combats, plusieurs organisations humanitaires ont dû suspendre leurs opérations à Kanyabayonga au Nord Kivu, affectant ainsi plus de 45 000 personnes déplacées depuis la deuxième quinzaine de mai, poursuit le communiqué. Malgré les contraintes, la communauté humanitaire a réussi à apporter une assistance nécessaire à plus de 3,5 millions de personnes en RDC entre janvier et avril 2024, renseigne les documents. Il est temps que tous les acteurs impliqués, ainsi que ceux qui ont une influence sur les parties au conflit, travaillent ensemble pour une désescalade immédiate des violences et un retour à un dialogue politique afin de trouver une solution durable au conflit. Il est également important d'augmenter les efforts en vue de promouvoir des solutions durables pour les personnes déplacées dans les zones où les conditions sont réunies, déclare Bruno Lemarquis.
Dans le territoire de Beni, au lendemain d'une série d'attaques attribuées aux rebelles de ZDF à Masala Mounouze, Kabweki et Massaou, les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord de FRDC s'est rendu sur place samedi. Selon les porte-parole des opérations Sokola 1, le général Bruno Mandevou est allé parler à la population pour la rassurer des paix dans la région. Le colonel Mac Azoukai est au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous sommes à Cantine, c'est tout près de là où l'ennemi a tué nos compatriotes. Et nous sommes en train de parler, de faire comprendre à la population qu'il y a absolument des défis qu'il faut relever. Le commandant est arrivé à Mangina, il a échangé avec la notabilité. Le même exercice a été fait hier à notre arrivée à Cantine, où le général a parlé à la population qui était déjà surchauffée. Les gens couraient dans tous les sens. Ça donne l'impression qu'il n'y a plus la vie dans le milieu, mais je pense que c'est plus la peur, parce que ça fait longtemps que cette contrée a connu de pareilles exactions. C'est tout à fait normal que les gens puissent paniquer. Mais notre présence, déjà, ça donne de l'espoir.
Rappelons que la semaine dernière, entre mardi et vendredi, au moins 75 civils ont été tués dans la région par des ADF. Depuis samedi, les forces conjointes des armées congolaises et ougandaises ont renforcé leur présence à Masala, Mounouze, Kabweki et Massaou. Dans la province de la Tchopo, les fonds de la réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC a procédé ce lundi à l'affiche de la liste de la première vague des personnes éligibles à l'indemnisation. Cet affichage coïncide avec la clôture des manifestations commémoratives du 24e anniversaire de la guerre de 6 jours. À cette occasion, un culte œcuménique a été organisé ce lundi à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
La clôture des manifestations commémoratives de ce douloureux anniversaire a été marquée d'abord par un culte œcuménique à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Ensuite, par une marche jusqu'au cimetière de la guerre des 6 jours. Ici, un mémorandum a été lu par la professeure Bibiche Saloumou. Plusieurs recommandations y sont contenues pour que ces crimes ne restent pas impunis.
Au président de la République de saisir formellement l'ONU pour demander la création d'un tribunal pénal international afin d'organiser les poursuites à l'endroit des auteurs des crimes commis en RDC.
En marge de cette marche, le FRIVAO a procédé à l'affichage des listes de la première vague des bénéficiaires de l'indemnisation individuelle. Monseigneur François Moirabou, son coordonnateur, indique que le processus va se poursuivre.
Ceux qui retrouveront leur nom affiché, ils devront se rendre au niveau des guichets, on oriente les victimes au niveau de l'extension de Raoul Bank qui se trouve du côté de Batam pour ouvrir leur compte. Et à ce moment-là, la banque va nous retourner les numéros des comptes des concernés pour nous permettre maintenant de se joindre l'ordre des paiements.
Signalons qu'à cette même occasion, le FRIVAO annonce le débit imminent de la construction des mémorials au cimetière de la guerre de 6 jours. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, cette information, du jeudi 13 au vendredi 14 juin, il est prévu, selon les calendriers scolaires, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire, TENASOSP, au Maniema. Les directeurs de la province éducationnelle Maniema 1 invitent les parents et les chefs d'établissement à bien encadrer les enfants qui vont présenter ces épreuves nationales. Mokito Kaunda Séraphin l'édite à Florence Kizalunga.
La meilleure éducation commence par la maison. Au moment où nous parlons, tous les enfants du secondaire ont terminé l'examen le 7 juin. Maintenant, ils sont libres. Mais je demande aussi aux écoles de ne pas laisser les enfants qui vont présenter le TENASOSP et surtout les élèves finalistes de 4e de rester à la maison. Parce que si on les laisse à la maison, ils seront à la merci de tout le monde. C'est pour cette raison que je lance cet appel d'abord aux parents, qu'ils les contrôlent. Les enfants peuvent dire que nous allons aller école, parfois, ils vont faire l'école buissonnière. Mais pour nous, nous ne voulons pas de cette manière. Nous voulons que les chefs d'établissement lancent un appel vivant à tous les parents pour un encadrement au niveau de l'école. Parce que sans l'encadrement au niveau de l'école, l'année n'a pas encore pris fin. L'année va prendre fin officiellement le 10 juillet. D'où les enfants qui vont présenter les évaluations à partir de jeudi, vendredi. Je leur demande d'être toujours dans leurs écoles parce que si on les laisse à la maison, ils seront à la merci des charlatans, des aventuriers qui n'ont pas la méthodologie d'enseignement.
Les journalistes sont appelés à sensibiliser les parents et les communautés pour qu'ils puissent faire vacciner les enfants de 0 à 5 à 9 mois contre la poliomyélite lors de la deuxième phase de vaccination de la campagne qui aura lieu du 13 au 15 juin 2024 en RDC. Les programmes élargis des vaccinations PEV a lancé cet appel lors d'un briefing avec la presse ce week-end. On écoute à ce sujet le docteur Fabrice Mawa, chargé des opérations de vaccination au sein du comité des opérations d'urgence contre la polio, au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention, organise une campagne de vaccination des masses contre la poliomyélite. Et en date du 13 jusqu'au 15 juin 2024, ça sera dans toutes les 519 zones de santé qui regorgent le pays. Et cette intervention sera couplée ou intégrée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. Déjà, les préparations sont en cours. Nous sommes à 6 jours. Nous avons fait appel au 4e pouvoir, que vous êtes les journalistes, les dames et les hommes des médias, pour nous aider à sensibiliser les communautés, à sensibiliser les parents d'enfants, les tuteurs d'enfants, pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination en faisant vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois. Et aussi, ils vont faire administrer la vitamine A ainsi que l'albendazole Tout cela, c'est pour le bien-être de nos enfants, parce que vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger.
Il faut souligner que les enfants de 0 à 15 ans de la province du Tanganyika seront concernés par cette campagne, les statistiques ayant montré une prévalence des cas chez les enfants de cette tranche d'âge.
Actualité internationale.
Au Malawi, l'avion militaire transportant le vice-président Saulos Chilima porté disparu. Des opérations de recherche d'urgence sont en cours depuis ce lundi matin après la disparition de cet avion militaire qui transportait le vice-président du pays et 9 autres personnes. Cet avion était attendu à 10h02 précise lundi matin sur les tarmacs de l'aéroport de Nzuzu dans le nord du pays. 3 quarts d'heure après son décollage de Lilongwe, la capitale située à environ 300 km plus au sud, il n'avait pas atterri.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Fatih Nzi Hassan, directrice d'Oxfam Afrique, à mission au Nord Kivu. Elle a visité les 3 camps de déplacés de Rusayo en territoire de Nyiragongo. Au terme de sa visite, elle a plaidé auprès de la communauté internationale ainsi que d'autres partenaires de la RDC de prioriser la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC dans leurs agendas. Madame Fatih Nzi Hassan répond aux questions de Gabriel Wamenya.
Bonjour madame.
Bonjour.
Madame Fatih, vous êtes au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Nous voulons savoir concrètement quel est l'objet de votre mission dans cette province secouée par la guerre.
Comme vous le savez, il m'a paru nécessaire, après ma prise de fonction il y a 1 an et demi, de rendre visite à nos équipes qui sont sur le terrain. Nous avons ici en RDC une équipe de plus de 160 personnes qui travaillent majoritairement dans les 4 provinces de l'Est. Donc j'ai voulu m'imprégner de leur réalité, de leurs défis et aussi appuyer leur agenda de plaidoyer pour leur permettre de mieux soutenir les communautés auxquelles nous apportons modestement notre aide.
Nous sommes présentement dans les sites des déplacés des Rusayo que vous venez de visiter. Quel a été votre constat?
Mon constat, c'est que c'est un camp déjà très grand, plusieurs centaines de milliers de personnes, et que les besoins ne font que grandir. L'instabilité s'est accrue, ce qui se traduit par des mouvements de plus en plus intenses de population. Donc c'est un camp qui accueille sans cesse de nouveaux déplacés internes. C'est un camp pour lequel il y a beaucoup de mobilisation des organisations humanitaires et également le soutien des autorités. Le rythme de croissance des besoins dépasse les capacités aujourd'hui en œuvre.
Et que pense faire Oxfam pour essayer d'aider, de pallier tant soit peu aux difficultés de ces personnes déplacées?
En ce qui concerne l'aide d'Oxfam, nous continuons à appuyer les déplacés internes avec des travaux d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Nous fournissons également du soutien en termes de protection des civils, notamment pour les femmes victimes de violences. Et nous appuyons également les déplacés avec de l'aide immédiate en termes de produits de première nécessité. Donc nous avons besoin d'encore plus de soutien de la communauté internationale pour nous permettre de continuer à soutenir les déplacés internes dont le nombre ne fait que grandir.
À cette occasion, vous avez rencontré les comités des femmes des déplacés. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement?
Les femmes membres des différents comités que les déplacés internes ont organisés nous ont assuré de leur satisfaction quant à l'aide apportée par Oxfam. Elles ont aussi exposé leur situation, notamment en termes de violences basées sur le genre, avec des histoires extrêmement personnelles et poignantes, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension encore plus fine de la réalité de la vie d'une femme mère dans un camp de réfugiés, dans un camp de déplacés, qui n'arrive pas à garantir sa propre sécurité et la sécurité de ses enfants, notamment de ses filles. Ça a été pour nous l'occasion de rappeler notre plaidoyer que nous avons porté à différentes autorités pour la démilitarisation des camps de déplacés internes, qui pourraient apporter un peu plus de soulagement vis-à-vis de cette situation.
Qu'est-ce qu'elles peuvent espérer après votre passage ?
Ce qu'elles peuvent espérer, c'est un engagement renouvelé et renforcé pour défendre la cause de la République démocratique du Congo, de ses déplacés internes et des femmes en particulier dans toutes les instances où nous avons la voix et où nous prenons la voix pour vraiment continuer à plaider pour la paix, un cessez-le-feu immédiat pour permettre en tout cas d'avoir un soulagement à ce niveau-là.
Oxfam appuie le projet d'assainissement en eau potable dans les sites de Roussayo. Et c'est pour vous suffisant avec l'arrivée des nouvelles vagues de déplacés?
Ce n'était pas suffisant avant l'arrivée de ces nouveaux déplacés internes. Donc il nous faudra mobiliser encore plus de ressources. Et nous appelons vraiment la communauté internationale à prioriser la crise dans l'est du Congo. Vous savez que c'est un pays qui compte 6,9 millions de déplacés internes. C'est une des plus grandes crises de déplacés internes du monde. Et donc nous avons besoin vraiment que ce sujet revienne en haut de l'agenda de la communauté internationale pour que les financements puissent venir appuyer les actions d'Oxfam et de toute la communauté humanitaire.
Madame Fatih, je vous remercie.
Merci à vous.
Fatih Nzi Hassan, directrice d'Oxfam Afrique, répondait aux questions de Gabriel Wamenya. Et c'est la fin de cette édition d'information, mise en onde par Deps Vita, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinj. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis.